VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Eric Manilakiza, en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique. Ravi d'être avec vous pour vous présenter cette édition de 19h30, temps universel. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui de vendredi 14 février 2017. D'abord, les principaux titres. Donald Trump, invité d'honneur à Paris, il a assisté à la grande parade du 14 juillet. Le président Emmanuel Macron a salué l'amitié entre la France et l'Amérique.
La meilleure façon de dompter un ours, c'est de le gaver de miel. C'est ce que le président Macron a fait.
L'analyste Athanase Karayenga à suivre dans la deuxième partie. Au Mali, un chef djihadiste du Front de Libération du Massina abattu dans le centre du pays.
C'est le détachement de la garde nationale et ils ont pu mettre hors d'état venir et ont pu neutraliser M. Bekaï et Sangaré.
Le colonel Diaran Kone, porte-parole militaire. Malaise au sein de la coalition au pouvoir à Abidjan. Certains Ivoiriens y voient une menace pour le maintien de la coalition au pouvoir.
La situation entière, ça m'inquiète parce que là où ça va, là, ça devient dangereux.
Vous suivrez la correspondance de Narita Namasté. Mouvement de panique dans un marché de Kinshasa après une fusillade. 5 personnes seraient mortes. Le moufti de Jérusalem, interpellé par la police israélienne après une attaque qui a emporté 2 policiers israéliens. Et restez branchés pour suivre les sports et votre actualité économique, bien sûr, après le journal. L'armée malienne affirme avoir abattu un chef du Front de Libération du Massina FLM dans le centre du pays. Ce groupe djihadiste est actif dans la région de Mopti et mène plusieurs attaques contre les forces de sécurité. John Lyndon a joint le colonel Diaran Kone, porte-parole de l'armée malienne.
Hier, dans la nuit, vers les 21h, 22h, dans la localité de Mounia, c'est 45 km ouest de Guinée, dans la région de Mopti. Les FAMA, en l'occurrence, des détachements de la garde nationale, ils ont pu mettre hors d'état des murs, ont pu neutraliser M. Bekaï et Sangaré. Bekaï Sangaré était réputé pour être l'élément qui commettait les forfaits, notamment l'année dernière sur le poste de la douane et de la gendarmerie à la bifurcation de Sofara en Nama à Mopti. Il a été l'auteur du meurtre d'un personnel des FAMA à Guinée et récemment, il vient d'être signalé aussi dans l'attaque du poste frontalier douane gendarmerie et du Mali à la frontière et avec le Burkina dans la localité de Berena.
Le colonel Diaran Kone, porte-parole de l'armée au Mali. Le représentant spécial des Nations Unies en Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas, a averti aujourd'hui que le conflit au Mali s'étend désormais au Burkina Faso et au Niger, avec une forte augmentation des attaques de groupes extrémistes dans les régions frontalières ces derniers mois. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, Monsieur Chambas a expliqué que les trafiquants de drogue et d'êtres humains, les marchands d'armes passent les frontières, établissant une présence provisoire avant de se déplacer vers de nouvelles zones. En RDC, l'administratrice du marché central de Kinshasa et le chef adjoint du commissariat de police ont été tués dans une attaque du marché du nord de la capitale par des personnes non identifiées. Les militaires de la garde républicaine, les agents de la police militaire et des policiers étaient déployés en grand nombre dans le quartier du marché. Les précisions de Thierry Kambundi de Top Congo FM.
Tout a commencé en début d'après-midi lorsqu'une douzaine d'hommes avec des bandeaux rouges sur le front attaquaient le commissariat de la police du marché central de Kinshasa, récupérant quelques armes avant de s'attaquer au bureau de l'administratrice du principal marché de la capitale de la RDC. Brigitte Mongo, c'est son nom, a été tuée sur place par balle avec son garde du corps. La panique qui s'en est suivie a créé des embouteillages monstres autour du centre-ville ainsi que la fermeture de nombreux magasins, même ceux éloignés du marché central. Un premier bilan des sources hospitalières fait état d'au moins 5 morts et plusieurs blessés, bilan non confirmé par des sources officielles. Le commissaire principal de la police ville de Kinshasa, joint sur place, attribue cette attaque à un groupe de voleurs et criminels, mais se refuse à avancer un quelconque bilan à ce stade. Le calme est revenu en début de soirée au marché central de Kinshasa avec un déploiement massif des éléments de l'armée et de la police. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Toujours en RDC, le mouvement congolais de jeunes indignés lutte pour le changement à Lucha a exigé la libération d'un militant arrêté dans la région troublée du Kasaï, dans le centre du pays. Nicolas Mbia a été interpellé ce matin en Mbujimayi par l'Agence nationale de renseignement. Aucun motif ne lui a été signifié. C'est la troisième fois en l'espace de 8 mois que M. Mbia est arrêté. Au Nigeria, un chef traditionnel a été suspendu de ses fonctions pour avoir organisé le simulacre de son propre enlèvement. Youssouf Ogundare a été suspendu pour une durée indéterminée avec effet immédiat. Le commissaire de la police de Lagos a dit que ce chef voulait embarrasser le gouvernement régional et compromettre un rival dans sa communauté. En Gambie, le président Adama Barrow a désigné hier une commission chargée d'enquêter sur les biens de son prédécesseur Yahya Jammeh. Celui-ci est parti en janvier en exil pour la Guinée équatoriale et accusé de détournement de fonds. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, le grand allié du président Alassane Ouattara, a dénoncé aujourd'hui une vague de limogeage de ses cadres, notamment Niamien Ngorane, vice-président du PDCI et très proche du leader de ce parti, Henri Konan Bédié. Il occupait le poste d'inspecteur général de l'État, un des plus hauts postes de l'administration ivoirienne. Et au Gabon, un journaliste et un syndicaliste ont écopé hier de 45 jours de prison ferme à l'issue du délibéré de leur procès. Ils sont poursuivis pour diffamation envers un magistrat. Ouverture de la campagne électorale au Rwanda pour la présidentielle du 4 août. Seulement 2 candidats affronteront le président sortant Paul Kagame. Nathalie Barge.
Franck Habineza et Philippe Mpayimana sont les 2 seuls candidats qui affronteront Paul Kagame et leur candidature n'a été validée par la commission électorale que quelques jours avant le début de la campagne. Quasiment inconnus du grand public, dotés de très peu de moyens financiers, ils n'ont que 3 semaines pour se faire connaître. Face à un parti au pouvoir hégémonique, la tâche semble impossible et une large victoire du président sortant est attendue. L'élection est jouée, n'a d'ailleurs pas hésité à affirmer M. Kagame lors de son premier meeting. Vice-président et ministre de la Défense après 1994, il a été élu président en 2003 et réélu en 2010 avec plus de 90% des voix à chaque fois. La présidentielle du 4 août prochain ne devrait donc réserver aucune surprise, comme le présagent de nombreux observateurs politiques.
Au Kenya, 5 personnes sont mortes pendant une opération pour libérer une responsable du gouvernement dans la région côtière de Lamu. Elle avait été brièvement enlevée hier par des membres présumés des islamistes radicaux Shebab. Et en Égypte, 5 policiers ont été tués par balle au sud du Caire. 3 hommes armés ont ouvert le feu sur leur voiture de police avant de prendre la fuite. Cette attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. Par ailleurs, 2 touristes ukrainiennes ont été tués et 4 blessés aujourd'hui dans une attaque au couteau dans la station balnéaire de Hurghada dans l'est de l'Égypte.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En France, le président Emmanuel Macron a salué avec force l'amitié entre la France et l'Amérique. C'était à l'occasion du défilé du 14 juillet, symbolisant la prise de la Bastille. Le président américain Donald Trump a rehaussé de sa présence cet événement. John Lydon a joint Luis Ramirez, notre envoyé spécial à Paris.
Lors des célébrations de la fête de la Bastille, comprenait des bandes militaires et un survol par les avions américains. Et il y a des soldats américains qui ont défilé à côté des soldats français sur le Champs-Élysées. Les grandes célébrations ont été le matin. Beaucoup de sécurité, plus de 3500 policiers ont pris des positions le long de la route du défilé pour se prémunir contre les éventuelles ou peut-être potentielles attaques terroristes.
Sur la conférence de presse qu'il y a eu entre les présidents Trump et Macron, qu'est-ce qu'on en retient?
Plus de flexibilité à la part du président américain. Après cette discussion avec Macron, le président Trump a indiqué qu'il pourrait changer sa réflexion sur sa décision de retirer les États-Unis de l'accord sur le climat de Paris. Il a dit que quelque chose pourrait se produire en ce qui se concerne l'accord de Paris. Nous allons voir qu'est-ce qui se passe, mais nous en parlons au cours de la prochaine période. Et si cela se produit, ça sera merveilleux. Ce sont les mots du président américain.
Après ces cérémonies, Emmanuel Macron s'est rendu à Nice pour se recueillir un an après l'attentat terroriste sur sa célèbre promenade des Anglais. Un camion bélier avait fait 86 morts. Des milliers de personnes n'oublient pas et sont venues s'y incliner aujourd'hui. Conflit israélo-palestinien. Trois Arabes israéliens ont tué par balle deux policiers à Jérusalem. Aujourd'hui, les assaillants ont été abattus sur l'esplanade des mosquées, troisième lieu saint de l'islam qui a été fermé en raison de ces violences. Et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis en garde contre une flambée de violences entre Israéliens et Palestiniens. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, suivez la Minute Éco avec Dili Diko.
Dans le cadre du 6e sommet du TAC, traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, Alpha Barry, ministre burkinabé des Affaires étrangères et de la coopération, a annoncé le lancement des travaux du tronçon Ouagadougou-Koudougou, un projet inclus dans la réalisation de l'autoroute Ouagadougou-Abidjan. Les travaux devraient débuter au premier trimestre 2018. Et afin d'assurer la continuité des ouvrages, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont convenu de rechercher des financements communs pour la réalisation de l'autoroute. L'agence de notation Moody's a baissé la note de crédit attribuée aux dettes du Gabon. Elle passe de B1 à B3 avec une perspective négative. Moody's avance deux raisons principales pour expliquer la dégradation de cette note. D'une part, la détérioration des finances publiques gabonaises à cause de la chute des prix du pétrole combinée à une capacité d'ajustement politique limitée et d'autre part, le manque de liquidité auquel fait face le gouvernement gabonais. L'Afrique du Sud prépare l'émission de 3 eurobonds d'une valeur de 2 milliards de dollars chacun. Les responsables sud-africains doivent rencontrer aujourd'hui 9 banques faisant des propositions pour jouer les entremetteurs lors de ces opérations.
Votre page sportive de cette édition, Yacouba Ouedraogo. Bonsoir.
Bonsoir Eric.
Soudan du Sud, Ouganda, pour donner le temps du premier tour des éliminatoires du CHAN Kenya 2018.
Tout à fait Eric. Et pour commencer, 0-0 entre Sud-Soudanais et Ougandais aujourd'hui même à Juba. Parmi les rencontres phares de cette manche aller, le choc de voisins ouest-africains entre le Togo et le Bénin ce dimanche. Bien avant, on aura ce samedi le duel des deux Guinées entre Bissau et Conakry. La Gambie reçoit le Mali. Les Lions de la Teranga se déplacent en Sierra Leone avec un effectif revu au dernier moment. 5 Lions quittent le groupe pour des tests en Europe. Ailleurs, Tanzanie, Rwanda retiendra l'attention dans la zone centre et est, tandis que le Botswana attend l'Afrique du Sud.
Le Camerounais Mukanjo signe en Chine, tandis que le Congolais Bakambu prolonge à Villarreal.
Effectivement, initialement lié à Villarreal jusqu'en 2020, Cédric Bakambu a prolongé l'aventure avec les sous-marins. L'attaquant congolais reste donc chez les jaunes jusqu'en 2022. L'international camerounais Benjamin Mukanjo, lui, s'est engagé pour 2 ans avec Jiangsu Suning, un club chinois de première division, entraîné par Fabio Capello. Le montant du transfert estimé à 5,5 millions d'euros. Mukanjo, 13 buts, a fini cette saison 3e du prix Marc Vivien Fouet 2017, puis remporté par Riyad Boudbouz.
Que peut-on dire de ce choc de génération en finale dames de Wimbledon?
Tout Eric, tout, l'américaine Venus Williams, 37 ans, et l'espagnole Garbine Muguruza, 23 ans. Ça sonne un peu burundais. Hein? s'affrontent donc en finale ce samedi. Venus qui s'est imposé à 5 reprises à Londres y va pour une 9e finale, la 16e en Grand Chelem. Pour sa part, Gabine, championne de Roland-Garros 2016, a le souvenir d'une finale perdue en 2015 à Londres contre la sœur cadette de Venus, Serena Williams. Chez les hommes, le croate Marin Cilic s'est qualifié pour sa première finale à Wimbledon. Il défiera dimanche le 7e lauréat de Wimbledon, Roger Federer, qui jouera sa 11e finale du tournoi londonien.
Et des Africains qui participent dans le Tour de France. Merci Yacouba pour toutes ces précisions.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Manirakiza, pour développer les dossiers du jour. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Le président américain Donald Trump était le grand invité du 14 juillet à la fête nationale française à l'invitation de son homologue Emmanuel Macron. Le locataire de la Maison Blanche a adopté un ton très différent concernant la France qu'il a vertement critiqué dans un passé récent. Pour analyse, Abdulrahman Dia a joint à Paris l'analyste politique Athanase Karayeng.
C'est plutôt une preuve que la diplomatie peut atteindre un niveau d'un art, d'un 7e ou un 8e ou 9e art. Et parce que ce n'était pas évident effectivement que le président Trump soit à Paris, parce qu'il a eu, pendant la campagne électorale américaine, des propos extrêmement désobligeants à l'égard de la France. Et l'opinion publique française ne le porte pas non plus dans son cœur. Et puis récemment, le président Trump s'est retiré des accords de Paris. A priori donc, il avait, le président américain avait accumulé toutes les raisons pour qu'il ne soit pas le bienvenu à Paris. Mais comme je disais, la diplomatie, quand elle atteint à un niveau aussi raffiné que le président Macron vient d'en donner un exemple, c'est vraiment de l'art. Et je pense que la meilleure façon de dompter un ours, c'est de le gaver de miel. C'est ce que le président Macron a fait.
Donc on peut dire que c'était une opération de charme de la part du président Macron d'avoir invité son homologue américain.
De charme, oui, certes, mais surtout de reconnaissance à l'égard du peuple américain qui a consenti un sacrifice immense en envoyant des jeunes se battre en Europe et en France pendant la Première Guerre mondiale, qui a emporté quand même 10 millions de victimes. Donc la raison, elle est fondamentale, elle est forte. Et puis, à côté de ça, effectivement, le président Macron a essayé a réussi merveilleusement à donner de la France une image belle, conquérante, accueillante. Et peut-être que le président Trump pourra même changer son point de vue sur le climat.
Justement, j'allais vous demander quelles peuvent être les retombées de cette visite du président Trump à Paris. Est-ce qu'on devrait s'attendre à une amélioration des relations entre la France et les États-Unis?
Oh, absolument. Les relations sont, à mon avis, déjà très, très largement améliorées. Il n'y aura plus de crispations, des discussions auront certainement... il y aura des tensions quand il faudra mentionner les intérêts des uns et des autres, notamment autour des industries qui vont naître dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique.
L'analyse de Athanase Karayenga en France. Dans le pays du cacao, c'est la Côte d'Ivoire. Un malaise semble s'installer au sein du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, la coalition au pouvoir. Et cela au moment où le débat sur l'alternance en 2020 passe en plein dans les différents états-majors des partis politiques membres de cette coalition. Depuis 48 heures, le pays connaît une vague de limogeage des personnalités proches du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, et ceux issus du PDCI-RDA. Les détails avec notre correspondante Narita Namassé.
En absence du président du plus vieux parti, Henri Konan Bédié, c'est Akossi Bendjou, vice-président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, qui a animé la réunion d'urgence qui s'est tenue au siège de leur formation politique. Après plus de 3 heures de huis clos, le président de Science du jour a confié à la presse mobilisée pour la circonstance ces quelques mots.
Dans le respect strict des procédures internes à notre parti, je me rendrai prochainement à Paris pour rendre compte au président du parti en présence du secrétaire exécutif qui se trouve lui-même actuellement en France.
La situation politique est très tendue depuis quelques semaines avec la cache-dame découverte chez un proche du président de l'Assemblée nationale et les nombreux limogeages de plusieurs cadres proches d'Henri Konan-Bédié et Guillaume Soro. Roland Unchaud se dit vraiment surpris du comportement du président Ouattara vis-à-vis de ses alliés.
Je suis beaucoup surpris que ceux qui ont permis à Ouattara d'accéder au pouvoir, aujourd'hui, ils n'arrivent pas à travailler avec eux. C'est un peu décevant. Il les a limogés pour des raisons peut-être que nous ignorons, nous, la population.
Un militant du Rassemblement des Républicains proche du président ivoirien s'interroge sur les derniers décrets de son mentor avant de se dire inquiet.
La situation entière, ça m'inquiète parce que là où ça va, là, ça devient dangereux. Bon, je me demande, le président Alassane veut quoi au juste?
Quand les Ivoiriens vont travailler ensemble, demain elle est là, après demain elle est là, nous on ne comprend plus rien. Or, ils ont dit qu'ils sont une alliance.
La coalition qui a porté le président Alassane Ouattara au pouvoir depuis 2010 va allègrement vers son implosion. Car depuis la prise du pouvoir, le partage du gâteau divise les alliés de circonstances à plusieurs niveaux. Conséquence, 3 des membres fondateurs de cette alliance ont claqué depuis longtemps la porte. Quelle sera la réaction du plus fidèle allié du pouvoir Ouattara face à ce qui infligeait à certains cas du PDCI? Les jours à venir nous situeront. Narita Namasté, à Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24 heures sur 24.
N'Djamena, c'est au Tchad. L'avocat de l'ex-maire d'Oumoundou et ancien candidat à la présidence, Laokin Kourayomedar, d'y avoir été empêché de le rencontrer dans son lieu de détention. Son arrestation hier soir par la police locale est intervenue quelques jours seulement après sa destitution par les conseillers municipaux qui l'accusent de mauvaise gestion. Les compagnons de Laokin Kourayomedar au sein de la coalition Cheval Blanc dénoncent pour leur part un complot orchestré par le régime du président Idriss Déby Itno pour déstabiliser l'ensemble de l'opposition. Timothée Donangmaï a joint l'avocat de l'ancien maire d'Oumoundou, maître Boniface Mouandil Noudji.
Hier soir, la population était agitée par rapport à son arrestation. Aujourd'hui, les esprits se sont calmés un peu. Donc, aux environs de 12 heures, heure locale, il y a le député de son parti qui est venu me chercher pour que j'aille le voir au commissariat central. Dès que j'ai fait mon entrée, la police m'a chassé comme un malpropre pour me pousser hors de la cour du commissariat. Selon les agents de la police, c'est qu'ils ont reçu des instructions venues d'en haut.
D'en haut, c'est-à-dire?
Je ne sais pas de leur hiérarchie. Donc, ils ne peuvent pas admettre la présence d'un avocat à ses côtés.
Nous avons aussi appris que son agent financier l'a rejoint en détention.
Oui, son directeur administratif et financier l'a rejoint aussi en détention ce soir. Maintenant, ils sont à la recherche du directeur technique de la mairie.
Est-ce qu'on en sait plus sur les motifs de ces interpellations?
Bon, selon ce que... Parce qu'on n'a pas accès au dossier, mais c'est des rumeurs qui circulent ça et là. On lui repose d'avoir détourné 3 milliards, dit-on, chose qui est vraiment impossible d'abord. Et puis on lui reproche de vouloir inciter la population à un soulèvement. Au fond de cette présentation d'accusation, c'est que les délégués régionaux du sud, de tout le sud de son parti, sont convoqués hier à une rencontre aujourd'hui. Alors, selon la stratégie du pouvoir, il faut empêcher que cette réunion se tienne aujourd'hui. C'est ça le fond du problème. Donc, il fallait l'arrêter avant la tenue de la réunion aujourd'hui. C'est ça le vrai problème.
Laokin Kourayomedar a été destitué de son poste de maire, mais il a été remplacé par un conseiller municipal de son propre parti.
Et pour ça, il fallait se réunir. Le parti doit se réunir. Bon, les délégués du sud doivent se réunir pour décider de la conduite à tenir de ceux qui ont quitté le parti, ou du moins qui l'ont destitué, ces conseillers municipaux qui l'ont destitué. Le parti devait se réunir pour décider de la conduite à tenir vis-à-vis de ceux-là. Et ça devait se dérouler normalement aujourd'hui. Donc il faut à tout prix empêcher cette rencontre-là aujourd'hui. Voilà un peu le mobile exact de son arrestation hier.
Qui a intérêt à empêcher la tenue de cette rencontre?
Ah mais, qui a manipulé les conseillers pour qu'ils le destituent? Ça, je n'en dirai pas plus.
Maître Boniface Mouandil Noudji, avocat de l'ancien maire Laokin Kourayomedar d'Oumoundou au Tchad.
Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Afrique centrale, pour terminer, au Congo-Brazzaville, exactement, la population s'apprête à élire leurs nouveaux députés et les conseillers locaux. La campagne électorale s'achève à minuit. Les observateurs de l'Union africaine sont déjà arrivés à Brazzaville. Mais une frange de l'opposition et la société civile appellent déjà au boycott des scrutins. À Brazzaville, Nguela Ngoussou nous donne les raisons.
Pendant 14 jours, les candidats de la majorité, de l'opposition et surtout des indépendants ont rivalisé d'ardeur pour rallier le plus de suffrages. Beaucoup de jeunes et des femmes sont candidats.
Oui, il a la chance parce qu'il est venu avec les projets tellement énormes pour la jeunesse. Nous le soutenons.
Il y a l'orgueil, la puissance de ceux qui ont des moyens et qui utilisent l'argent de l'État. Alors, c'est décevant. Mais ils n'ont pas de chance.
C'est dans cette ambiance qu'une frange de l'opposition, appuyée par la société civile, appelle au boycott.
Donc ça ne sert à rien que nous perdons et notre énergie et nos connaissances pour aller légitimer un pouvoir qui, depuis 2016, est illégitime, dont nous vivons nos conséquences aujourd'hui.
Les organisations de la société civile, signataires de la présente déclaration, demandent à tous les citoyens congolais soucieux du changement pour le progrès social, de la consolidation de la démocratie, de l'état de droit et des institutions crédibles, de ne pas prendre part à cette farce électorale jouée d'avance. Le jour du scrutin, nous devons tous observer une désobéissance civile en restant chez nous.
Charles Zachary Boao, le porte-parole de la Fédération de l'opposition, explique.
Vous savez, notre position est essentiellement politique et éthique. Nous aurions bien aimé partir et nous savons que nous aurions gagné. Et nous, comme nous avons gagné à la présidentielle. Autre chose est de savoir si nous avons les moyens de protéger notre victoire face aux armes. Là, c'est tout le problème de la gouvernance électorale que nous posons et tout le problème du dialogue inclusif que nous appelons de tous nos voeux. Autrement dit, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La désobéissance civile.
Plus de 1200 candidats ont pourtant battu campagne pour les législatives, même dans le pool, une région en proie à des graves violences. Joachim Banza, le candidat de la majorité, Mbanza Ndunga.
Mais je crois que si on adopte l'attitude de baisser les bras, de boycotter, on ne résoudra rien. Au contraire, on va condamner les populations aux souffrances. Le boycott est une attitude que je trouve extrême à éviter.
Une vingtaine d'observateurs mandatés par l'Union africaine sont déjà à Brazzaville. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Oui, le rythme vient de changer. Il faut relaxer, c'est vendredi. Femme africaine, Samangwana. Vous auriez... Oui, vous auriez sans doute deviné la voix de Samangwana. C'est la fin de cette édition. Georges et Léonard Sagnot, assuré la mise en onde, à la console David Magnes et à la présentation Eric Manilakis. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24 et dans un instant RM Show pour vous apporter encore de la musique sur VO Afrique. Passez une agréable soirée. À bientôt.